Bienvenue dans Entreprendre avec la permaculture avec
Aline,
Violaine
et Marie. Bienvenue dans Entreprendre avec la permaculture, notre laboratoire d'entrepreneurs pour mettre en cohérence nos entreprises avec les lois du vivant pour un monde plus respectueux, abondant et résilient. Vous êtes avec Aline Foubert, paysanne herboriste, fondatrice de Madame Pâquerette. Bonjour Aline.
Bonjour Marie.
Violaine de Ravignan, fondatrice de l'Atelier des Arènes. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et moi-même, donc Marie Gasque, fondatrice d'un cabinet de kinésiologie spécialisé en périnatalité. Et nous sommes donc les créatrices de l'émission. Notre objectif, c'est vous partager notre quotidien d'entrepreneur qui cherche à allier permaculture et développement de nos activités. Et aujourd'hui, on démarre avec un autre principe: collecter et stocker l'énergie. Alors Aline, en permaculture, on parle de quoi ?
Alors, avec ce principe-là, donc ce deuxième principe, collecter et stocker l'énergie, on émet l'idée qu'il est important en fait de développer des systèmes qui vont permettre de collecter et stocker l'énergie, énergie ou ressources, tant qu'elles sont abondantes, hein, pour pouvoir en bénéficier en fait toute l'année, parce que souvent l'abondance est saisonnière et du coup on n'en a qu'une partie de l'année.
Il y a la notion de collecter, stocker l'énergie. Il y a cette notion aussi de matière première, de stockage de matière première, si on élargit ça au quotidien d'un entrepreneur. Violaine, j'imagine que pour toi, cet enjeu, il te parle.
Moi, la matière première que j'utilise, ça va être le cuir au sein de mes ateliers ou dans mes productions. Et c'est vrai que c'est une matière que je vais trouver. Donc ça va être déjà une matière existante, donc je vais dans des endroits qui déstockent des cuirs, et là donc je vais pouvoir collecter cette matière, et pour moi ça va être un peu comme un cycle sur l'année pour collecter cette matière et pouvoir la préserver sur la durée. Donc après je vais pouvoir produire et mes produits et utiliser en atelier. Je vais pouvoir donc ensuite, s'il me reste des chutes, aussi les garder pour pouvoir réutiliser en produits complémentaires ou suivant des besoins de l'année. Et enfin, je fais un réassort pour un stock. Et donc, ce stock, il est défini à peu près pour l'année. Et du coup, j'ai cette tranquillité-là, parce qu'au niveau de cette énergie de stock, je n'ai pas de souci à me faire. Parce qu'en fait, je vais prendre les cuirs qui sont à disposition au niveau des couleurs. Donc, je suis vraiment sur quelque chose qui va me permettre d'avoir des pièces uniques pour les personnes qui viennent aussi, des petites séries éventuellement. Mais je ne vais pas me stresser par rapport à une couleur qu'il va falloir trouver absolument, etc.
Tu pars de ce qui existe.
Exactement.
À un moment donné.
De ce qui est existant et déjà ça m'enlève une grosse charge mentale pour l'année.
Aline, je ne sais pas s'il y a cette notion-là de matière première et de stockage, tu as quelque chose à rajouter ou à demander à Violaine ?
Bah, du coup, ça veut dire que tu ne manques en fait jamais de matière première.
Non. Finalement, je ne manque pas parce que j'ai une gamme de 15 couleurs pour l'année. Alors, en fonction des demandes, le seuil pourrait augmenter, mais je me constitue ce stock-là à peu près sur cette quantité-là. Et donc, ça me fait vraiment l'année. Une fois que j'ai épuisé, déjà, je sais à peu près vers quelle dominante de couleur je pourrais m'orienter pour l'année suivante ou suivant les demandes qu'il y a eu. Par contre, je ne garantis pas de trouver le orange spécifique ou le bleu. Et puis, clairement, il y a des couleurs qui sont très compliquées à trouver. Je cherche déjà depuis 3-4 ans, je n'ai pas trouvé, mais et c'est pas grave.
Donc, ça raconte aussi quelque chose de ta manière d'avoir conçu ton activité et ton entreprise. Tu n'es pas partie de « je veux faire ça » et du coup, je regarde comment je le fais. Tu es d'abord partie de « voilà dans quel contexte je suis, voilà où se trouve la matière première, voilà en étant là où je suis en Dordogne, comment je peux m'approvisionner et ce qui existe ». T'en es vite arrivé que t'allais pas te prendre la tête.
Et ça, c'était en suivant déjà le premier principe. Et ça m'a permis d'effectivement, sur ce principe-là, du stockage de l'énergie, de collecter et stocker, c'était vraiment évident, quoi.
Voilà, donc c'est un principe que tu as intégré dès le départ
oui.
Et qui te facilite la vie au quotidien.
Complètement.
Alors Aline, toi tu as donné la définition, donc collecter, stocker l'énergie, donc l'air non, mais l'eau, le soleil j'imagine. quand on le convertit par exemple en électricité ou d'autres manières, je ne sais pas, ou dans la serre peut-être. La serre fait partie de ces principes. Donc ça correspond à, directement à ce qui se passe dans ton jardin. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment tu appliques ce principe déjà dans ton jardin, dans tes cultures ?
Oui, alors souvent, la première chose à laquelle on pense quand on entend collecter et stocker l'énergie, c'est l'eau. Parce que c'est vrai que l'eau, bah, elle ne va pas être abondante toute l'année. On a des périodes où on a beaucoup d'eau, comme en ce moment, et on a des périodes où l'eau devient rare. Donc c'est vrai qu'en agriculture, un des défis, c'est vraiment d'être capable de collecter cette eau et de la stocker pour qu'elle soit présente toute l'année. Donc là, au jardin, bah, on a mis en place des réserves avec des cuves hein, qui récupèrent du coup l'eau des différentes toitures que l'on a sur le terrain. Et on a aussi la chance d'avoir une mare. Donc une mare qui est pour le moment naturelle. Donc c'est une mare que l'on utilise jusqu'à environ juillet, qui s'assèche ensuite. Donc là, on a aussi pour le projet d'en conserver une partie en naturel et puis d'en creuser en fait une seconde partie pour avoir du coup un étang et une réserve d'eau un peu plus pérenne. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir aussi plusieurs façons de collecter cette eau et de la stocker. Parce que comme ça, quand il en manque à un endroit, on est capable d'aller en chercher à un autre.
Alors toi, tu nous expliques, et c'est très concret, et tu es vraiment basé sur collecter, stocker l'énergie, c'est vraiment avec les éléments de la nature. Et du coup, tu parlais aussi des graines.
Oui, ça peut être tout à fait un autre exemple. Donc au jardin, lorsque les fleurs montent en graines, on va récolter les graines qui vont être présentes hein, sur le plan juste à une partie de l'année, juste à un moment de l'année. On va récolter ces graines, on va les stocker et puis on va les ressortir du coup au printemps pour refaire de nouvelles plantations. Donc là, le côté vraiment collecter hein, la graine, connecter l'énergie, connecter la ressource, la stocker et ensuite la réutiliser l'année suivante.
Donc ça, c'est très concret, c'est dans un jardin. Et moi, je me suis aperçue que j'étais face à un phénomène un peu particulier, mais finalement qui concerne toutes les activités qui ne sont pas de l'ordre de la production physique de quelque chose, mais qui sont des activités de service, de conseil, etc. Donc finalement, ça concerne aussi pas mal d'activités. C'est que collecter et stocker cet enjeu-là très matériel, Violaine, auquel tu as dû te confronter dès le départ. Mmh. Eh ben, moi, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de matière première en tant que telle. J'ai besoin d'un lieu pour exercer mon activité de kinésiologie. Mais voilà, et donc, l'avantage, c'est que moi, financièrement, je peux partir, et je suis hein, au départ, partie à partir de rien. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai le lieu, je peux proposer mes séances de kinésiologie. Donc il y a aussi cette question peut-être d'investissement et de financement au départ. Moi, du coup, je n'ai pas eu à collecter, à stocker, à penser ça dans le fonctionnement de mon énergie. En revanche, kinésiologue dit travailler avec le mouvement, travailler avec ce qu'est la personne, travailler avec le mouvement naturel du corps et travailler donc avec les énergies à la fois du corps, à la fois plus grand que nous et à la fois en lien bien concret avec toutes les problématiques et les enjeux auxquels on est confronté dans notre vie quotidienne et comment on fait le lien avec tout ça. Donc je travaille en montrant des mouvements, je travaille aussi avec mes mains, en écoutant avec mes mains le corps. Et donc, j'en arrive à la conclusion que je suis mon entreprise et mon fonctionnement. Il est uniquement basé sur l'énergie, mais sur ma propre énergie. Et du coup, voilà, en abordant ce système, ça me questionne aussi en me disant, est-ce que le développement d'une entreprise basée uniquement sur mon énergie à tous les niveaux, hein, de l'énergie guérissante, qui procure du bien-être à mon énergie physique pour pouvoir montrer les mouvements, etc. Est-ce que sur le long terme, il n'y aurait pas une manière de penser le développement ou les services de manière beaucoup plus multiple ?
Diversifiée.
Diversifiée, voilà, merci, je cherchais le mot. Pour, voilà, ça, en tout cas, ça m'indique, tu vois, se soucier de ce principe-là m'indique que là, j'ai sûrement quelque chose à penser et à repenser. Alors Aline, tu nous as parlé des graines, de la gestion de l'eau, mais ce principe-là, évidemment, on l'applique à la conduite de nos entreprises. Donc collecter et stocker l'énergie, très concrètement, quand on est entrepreneur, quel que soit notre domaine d'activité, comment ça peut se traduire ?
Eh bien, c'est vrai que là, on va parler de l'énergie de l'humain, hein, donc de notre propre énergie, de l'énergie de l'entrepreneur. Et moi, j'utilise beaucoup le cycle des saisons pour gérer cette énergie-là. Alors, c'est vrai que j'ai aussi une activité qui est très proche hein, du cycle de la nature et donc du cycle des saisons. Et du coup, en fonction de la saison dans laquelle on est, je ne vais pas forcément avoir besoin de la même énergie ou du moins donner une énergie plus ou moins élevée ou pas. Typiquement, en hiver, bon bah, au jardin, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment un temps de sommeil. C'est un temps où on est dans l'introspection, hein, donc où on est à l'intérieur de nous. Donc moi, dans mon entreprise, c'est vraiment un temps où je vais faire mon prévisionnel pour l'année qui va suivre. Donc, quels produits, quelles plantes, je vais mettre à l'intérieur de mes box, etc., etc. Donc là, je vais vraiment être dans un temps de prévisionnel. Arrivé au printemps, ben là, on est dans l'éclosion. Donc moi, c'est le temps aussi où je sors mes graines, je recommence à être au jardin, je fais mes plantations. L'été, c'est là où l'énergie est à son apogée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est vraiment le temps où je fais toutes mes récoltes, mes transformations. C'est souvent le moment où je propose beaucoup, beaucoup d'ateliers au jardin. Et puis arrivé à l'automne, bah, c'est là où aussi l'énergie redescend, hein, redescend dans les racines. C'est le temps du bilan. Donc c'est le moment aussi où on clôture la compta, où on fait voilà, toutes ces petites choses-là de fin d'année pour arriver ensuite à l'hiver et se remettre dans une dynamique de prévisionnel pour l'année l'année suivante.
Effectivement, et tu nous avais partagé ça lors de nos discussions sur l'année qui vient de s'écouler, puisque le podcast est le résultat et l'envie qu'on a eue de partager toute cette réflexion qu'on a amorcée depuis un an sur ce lien entre principe du vivant, principe de permaculture et développement de nos entreprises. Et donc, on s'y intéressait, Violaine et moi, et effectivement, à l'usage, on a trouvé ça hyper intéressant. En tout cas, je vais parler pour moi. Cette notion de, tu vois, tu as ton agenda, tu ouvres ton agenda. Bon, en fait, tu ne fais pas un agenda sur la semaine ou même sur le mois. Mmh. Tu démarres ton agenda et tu le prévois sur l'année. Du coup, j'ai appliqué ça l'hiver dernier. Et effectivement, ça donne une autre mesure. Et quand on est dans le rush, on n'a pas de l'énergie en plus, on maîtrise mieux son énergie, c'est-à-dire les moments où on est en activité, on n'est pas non plus en train de réfléchir les nouveaux concepts, comment je vais mettre en place mon nouveau produit, etc. Tout ça, ça s'est fait en amont, en période creuse. Et lors de notre discussion, Violaine, tu vas me dire si c'est pareil pour toi, on s'est aperçu aussi là que nos entreprises, elles ont leur saisonnalité propre, elles ont leur saison, elles ont leur cycle. Oui. Aline nous a bien détaillé le cycle de son entreprise. Toi, est-ce que c'est pareil comme ça, automne, automne-hiver,
printemps-été ? On pourrait dire que c'est en semestriel pour
okay,
de
toi,
mon
c'est
côté.
Deux fois par an.
Oui, deux fois par an. Déjà en début d'année, j'ai le bilan de l'année précédente et là, je redémarre un peu tout à zéro. Je fais mon plan d'action pour l'année, pour les deux semestres, sachant que le deuxième semestre a remis... peut-être réajuster en fonction déjà des six premiers mois passés.
Parce oui, que c'est tu sais quoi, tu as une haute saison, toi ?
En fait, ça va être, par exemple, les ateliers, souvent, c'est dès que les beaux jours arrivent, les gens ont plus envie de venir me voir. Donc souvent, en début d'année, c'est assez calme, mais c'est très bien. Ça me permet de m'occuper du réassort, de ce fameux stock à gérer, de prévoir les ateliers que je pourrais faire dans l'année, les événements ponctuels, s'il y a des marchés ou des expositions qui peuvent se profiler. Et voilà, et du coup, et après j'ai une pause vraiment au mois d'août où là j'arrête tout et je me ressource. Et comme ça je redémarre en septembre. C'est déjà un peu lancé parce que je sais à peu près ce que je vais faire d'ici Noël, qui est aussi une grosse période, mais ça redémarre tranquillement. Voilà.
Ok, donc tu fais toi ton point, oui. Ta stratégie, tes réflexions, etc., deux fois
oui.
Dans l'année, ça correspond avant et après, en préparation de tes périodes de pic d'activité, qui sont plus le printemps et ensuite vers Noël.
Oui, alors pic d'activité, c'est printemps, début d'été et puis le Noël sur là.
Okay. Et moi aussi, je me suis aperçue que j'avais une saisonnalité. Alors moi, liée finalement à la vie des familles, ce qui est quand même logique puisque c'est les personnes que j'accueille. C'est-à-dire, alors janvier, rien. Donc au début, j'étais hyper inquiète. Maintenant, j'ai l'habitude. Donc le mois de janvier, c'est la remise en route. En même temps, je travaille moi-même avec la médecine chinoise, avec les principes de médecine chinoise. Donc, cette notion de pendant l'hiver, on revient à soi, etc., ça me correspond bien. Donc, du coup, le mois de janvier, maintenant, me permet d'imaginer et de programmer ce que j'ai envie de mettre en œuvre pour mon entreprise pour l'année à venir. Ensuite, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à mi-juillet, ça repart bien. C'est, on va dire, là où l'activité est vraiment stable. Oui. Alors, c'est rigolo. Par exemple, entre le 1er et le 15 juillet, là, c'est toutes les familles. Ah, on est en vacances, on n'est pas encore parti. OK, s'il y a quelque chose à gérer, des problèmes de stress, que ce soit les mamans qui prennent un peu de temps parce que, pas parce que les enfants sont en vacances, mais peut-être parce que le mari est en vacances et du coup, ça permet de naviguer, d'être un peu plus souple dans l'organisation. Ou alors pour les enfants, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire là au mois de juin qui est terrible, et ben on le fait en juillet, donc ça, c'est ça. Après, il y a le stress de la rentrée, préparation de la rentrée, apprentissage, stress parce qu'on rentre, les enfants rentrent en CP, après c'est aussi des nouveaux enjeux au niveau du travail, donc en gros ça démarre autour du 20-25 août, et au mois de septembre, franchement, vous allez comprendre, on est tous occupés à la rentrée. Donc les familles sont occupées à retrouver un rythme de rentrée. Donc mois de septembre, moi c'est très très calme. Et après ça repart octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'effectivement il y a des cycles dans nos entreprises. Et il y a des cycles aussi pour nous et même à l'intérieur de nos corps. Et que collecter, stocker l'énergie, c'est faire attention aussi à ces cycles-là. Donc, avoir nos lunes, nos règles, le cycle menstruel, eh bien, nous, les femmes, on a des variations d'énergie. Et comment, en tant qu'entrepreneur, on fait avec ça ? Aline, toi qui t'intéresses au cycle, est-ce que tu as des petits éléments à nous donner ?
Oui, alors, c'est vrai que les hommes sont plutôt liés au cycle du soleil. Nous, la femme, on va plutôt être liés au cycle de la lune, donc cycle de 28 jours. Et qui peut du coup correspondre aux menstruations. Et donc pendant ces cycles de 28 jours, on est traversé par 4 phases. Donc il y a la phase des menstruations, donc des règles, qu'on appelle la phase des lunes. Chaque phase dure 7 jours. Il y a la phase pré-ovulation, donc juste après les règles. Il y a la phase de l'ovulation et la phase prémenstruelle, juste avant les règles, qui est souvent la phase que l'on n'aime pas trop, en général. Et en fait, on est traversé par chacune de ces phases-là, et il se passe des choses dans le corps, mais aussi dans les émotions, qui vont être complètement différentes, et du coup, aussi dans l'énergie. Et si ça peut vous aider un petit peu à comprendre, on peut relier chacune de ces phases aux saisons. La phase de nos règles, de nos menstruations, peut correspondre à l'hiver, donc qui est plutôt un temps d'introspection, de repli. On dit que ça peut être aussi un temps de grande vision. Donc c'est un peu le moment d'imaginer les projets, en fait, de les imaginer, de les créer. Ensuite, on tombe dans la phase juste avant l'ovulation, qui peut être liée à la saison du printemps. Donc là, on reprend de l'énergie, on est dans l'éveil, le réveil, et on commence à mettre en œuvre ce qu'on a imaginé au moment de nos règles. On tombe ensuite dans la phase de l'ovulation, qui peut être liée à la saison de l'été. Et là, c'est vraiment en général une phase où on a beaucoup d'énergie, où on est prête à donner beaucoup, à faire beaucoup. Et là, je mettrais juste un petit bémol dans le côté on donne beaucoup, on fait beaucoup, on est dans une phase qu'on appelle aussi la phase de la mère. Mais il ne faut pas oublier de se donner à soi-même, parce que souvent on a tendance à donner beaucoup, mais il ne faut pas oublier de recevoir et de se donner à soi-même. Parce que sinon, dans la quatrième phase, qui est la phase du coup prémenstruelle, si on donne tout aux phases d'avant, ben arrivé à la phase prémenstruelle, on n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie. Déjà, c'est une phase que l'on n'aime pas beaucoup. C'est souvent là où apparaissent des douleurs. On peut être un petit peu dans la peur de l'arrivée des menstruations. Donc cette phase-là, elle va être reliée à la saison de l'automne. C'est plutôt une phase de bilan.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, là, si ça ne va pas, on a même nos hormones, là, ça ne va vraiment pas aller. Mais en même temps, ça nous permet de voir les problèmes quand tu parles de bilan.
C'est ça. Du coup, c'est vraiment un moment où on est dans le bilan. Et donc, c'est surtout pas un temps où on prend des décisions. C'est surtout pas un temps où on prend des décisions parce qu'en général, le matin, on dit oui, le soir, on dit non. Et cette contradiction, on l'a en nous. Et en fait, elle s'explique de manière physique. Très simplement, c'est que on a eu l'ovulation, donc qui était la phase juste d'avant, et s'il y a eu enfantement ou non, le bas du ventre le sait. Il le sait s'il a enfanté ou non. Mais la tête ne le sait pas. La tête, elle le sait uniquement lorsque les règles arrivent. Donc pendant cette phase prémenstruelle, entre l'ovulation et les menstruations, le bas du ventre, il sait quelque chose et la tête, elle ne le sait pas. Du coup, vous comprenez la contradiction déjà dans le corps. Elle se fait ressentir, donc imaginez au niveau des émotions, etc. Mmh. Donc en termes d'entrepreneur, d'entreprise, c'est vraiment pas un temps où on prend des décisions. On attend d'être dans le temps des règles, où là, on prend du temps pour soi. En plein été, on peut très bien se mettre avec un petit plaid, une petite tisane, ça marche aussi. Et là, on part dans notre vision, on part dans le rêve et dans le projet. Et là, on peut prendre des décisions.
Justement, ce qui est intéressant, c'est comment quelque chose... on a une vision de l'entrepreneuriat très linéaire, mais très masculin. Et du coup, dans ce principe, ça nous ramène aussi à nous, à nos propres variations d'énergie. Et nous, en tant que femmes, c'est à prendre en compte. Et ce qui peut être intéressant, c'est que ce cycle, il peut être un moteur, mais absolument parfait pour développer nos entreprises. Sauf que ça ne se fait pas linéairement, comme l'image qu'on a de l'entrepreneur, ça se fait en cycle. Donc, tout va bien, ouais, et après, ah non, mais j'en peux plus, ah, mais ça va pas, mais ce que j'ai... Ok, la période de questionnement, et puis je me pose, non, mais en vrai, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et comme ça. Ok, j'ai vraiment envie de ça et je vais le mettre en œuvre, etc. Et on fonctionne comme ça par cycle. Et pour l'appliquer, moi aussi, je trouve qu'une fois qu'on voit les choses comme ça, là où notre cycle peut être un problème, là, il est vraiment un soutien. Et je trouve que c'est chouette de diffuser cette idée que c'est avec notre cycle qu'on va monter et développer nos entreprises et non pas en s'adaptant à un système qui, juste, n'est pas adapté à notre physiologie. Et cette question de la physiologie, ça ramène à ce point zéro, c'est-à-dire collecter et stocker l'énergie. Ça parle d'abord de nous, du point zéro, de celui sans qui il n'y a rien, c'est-à-dire le permaculteur. Si lui, il ne va pas bien, il n'a pas l'énergie pour aller planter, s'occuper, etc., ça va moins bien pousser. Les récoltes vont être moins bien que si le permaculteur est en bonne forme, c'est-à-dire pas toujours en activité. Du coup, cette notion de point zéro, c'est vraiment mon domaine d'activité en tant que kinésiologue. Et comme moi, je travaille uniquement avec l'énergie, C'est vraiment cette question-là. C'est moi, ma question principale, finalement, c'est comment je la régénère. Comment, quelque part, notre énergie vitale, qui est la vie en nous, dont on bénéficie du tout début jusqu'à notre mort, il n'est pas question d'aller, comme un produit dont on ne ferait pas attention. Voilà, il y a au contraire question de y faire hyper attention et de ne pas laisser cette énergie se dispatcher, se diffuser, etc. Et donc, en rigolant tout à l'heure, je vous disais, moi, il faut que je parte en vacances. Et alors, c'est fou parce que, en fait, quand je suis en vacances, c'est là où le téléphone se remet à sonner quand j'ai des creux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette notion de comment vous gérez votre propre énergie en tant qu'entrepreneur?
Alors, du coup, moi, de mon côté, j'ai un rituel, en fait, régulier. Je vais directement dans mon jardin. J'ai besoin d'être en pleine nature. Vraiment, je prends mon sécateur et mes gants et je circule dans le jardin et j'observe et je viens soit couper, retirer, gratouiller. Voilà. Je passe ma petite demi-heure dehors avec ma chienne et ça me régénère du coup à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment en dehors de l'entreprise. Et aussi, je voulais rejoindre. J'ai aussi besoin, donc ça, c'est ma connexion à moi-même. Et j'ai aussi besoin d'avoir une connexion avec l'extérieur et donc faire du réseau, être par exemple comme ce matin, on s'est retrouvé entre plusieurs entrepreneurs à pouvoir échanger, tout ça, ça me nourrit aussi.
Mais comme ce qu'on fait là.
Exactement, mais t'as raison. Ce qu'on fait nous trois là déjà depuis un an aussi. Enfin voilà, ça c'est vraiment, j'ai besoin d'être en connexion avec d'autres pour pouvoir échanger, etc. Et dans l'entreprise, ça va être la création.
Et toi, Aline, qu'est-ce qui te nourrit et nourrit ton énergie au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneur?
Alors, ce qui va nourrir mon énergie, je pense que c'est la liberté et la possibilité, en fait, de mettre en place, de mettre en action des idées que j'ai et qui m'aident vraiment à me reconnecter à la nature qui m'entoure et notamment à cette nature cyclique. Par exemple, exactement comme on vient d'en parler, c'est-à-dire que moi, mon entreprise, elle vit en fonction des saisons. Et ça me fait gagner de l'énergie. Je prends l'énergie, en fait, à chaque saison, je prends l'énergie qu'il y a à prendre. Et ça me permet de réguler mon énergie, de la prendre quand il faut la prendre, de la laisser quand il faut l'utiliser. Alors, à travers du cycle féminin, là, c'est aussi d'autres choses que je découvre et qui sont, du coup, ultra puissantes. Et donc, ça me permet de mettre en place des actions qui vont davantage me nourrir plutôt que me fatiguer. On en parle, hein, le fait de gagner en énergie plutôt que de tout donner. Et bien sûr, l'extérieur. Moi, je ne pourrais pas rester entre quatre murs toute la journée. C'est le contact avec l'extérieur, les éléments, ce qui laisse libre cours à ma créativité et la liberté de pouvoir le réaliser. Et ça, c'est fabuleux quand on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques mois, on s'est vus toutes les trois, on s'est dit « Et si on faisait un podcast ?» Et on l'a fait, et de manière simple. Ok, ça je trouve que c'est hyper puissant, de manière très spontanée. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment au quotidien.
Tu vois, moi, ça me parle en kinésiologie, pour le corps réagit vraiment très, très puissamment aux métaphores. Et donc, on utilise les métaphores en médecine chinoise, donc vis-à-vis des éléments de médecine chinoise. Et il y a cette métaphore avec le feu. Un des organes reliés à l'élément feu, c'est le cœur. Et quand tu disais, quand on fait quelque chose qu'on aime, ça nourrit aussi. Et je trouve de mettre cette nuance-là que nous apporte la médecine chinoise, elle est intéressante. C'est-à-dire, soyons attentifs. Le feu, il est nourri par des bûches. Donc, soyons attentifs à mettre nos bûches pour qu'il y ait toujours un bon feu. Mais en même temps, si on fait un grand feu de joie, alors, ça va y aller à fond, mais en vrai, ça va cramer. On va se cramer, même notre corps va être cramé. Donc, un excès d'enthousiasme sur du long terme, du trop. Est-ce que c'est bon ou pas? Moi, en médecine chinoise, c'est plutôt l'équilibre. Et puis, je pense qu'on peut tous l'expérimenter. Et en même temps, si on ne met pas de bûche, qu'on n'est que dans le faire, que dans l'action, que dans « ah mince, eh bien, en fait, à un moment donné, il n'y a plus de bûche. S'il n'y a plus de bûche, il n'y a plus de feu. Et donc, il n'y a plus cette joie, chose qui nous nourrit. Et c'est là aussi où on peut se décourager dans son projet entrepreneurial. Donc, c'est peut-être, on peut clôturer peut-être là-dessus sur mettons nos bûches, celles qui nous conviennent. Donc moi, c'est vraiment les vacances dans le sens où j'ai mon corps qui est en contact direct avec les éléments, avec la mer, avec la montagne, avec les arbres, où je sens directement, presque par le toucher, mais vraiment par le toucher, par mes pieds, ce contact avec la terre. Vous avez expliqué les vôtres aussi. Et du coup, on peut peut-être conclure là-dessus, juste en transmettant, ben, choisissez vos bûches et alimentez avec ces bûches-là régulièrement votre feu intérieur, votre cœur et ce que vous faites avec cœur pour votre entreprise. Donc on arrive à la fin de cette troisième émission. Et oui, on est à la troisième émission. On a dit que la quatrième, on allait fêter ça avec les auditeurs. Ça serait chouette avec les personnes qui nous suivent. On va réfléchir à ça. Et donc on se retrouve le mois prochain pour examiner un autre principe de permaculture appliqué à l'entreprise. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Aline, Violaine et Marie dans Entreprendre avec la permaculture.